et je vais enchaîner de suite. Plusieurs prophètes dans les temps anciens, ceux qui ont lu la Bible, qui ont peut-être une familiarité avec ce qu'elle raconte, plusieurs prophètes ont annoncé d'avance la venue, le triomphe et le règne du Sauveur de l'humanité. Et nous l'avons chanté à plusieurs reprises. Ce descendant d'Ève, la première femme, c'est lui qui devait détruire les forces du mal et le diable même. Il devait être aussi le descendant d'Abraham, le père de la foi, quelque part, par qui Dieu allait bénir toutes les familles de la terre. Et ce même descendant, promis et annoncé par les prophètes d'avance, devait être aussi descendant du roi David, un descendant par qui Dieu ferait venir son règne éternel de paix, de justice. Et voici que, vers l'an 33, Jésus de Nazareth, un descendant justement du roi David, exerce depuis quelque temps un travail, une activité hors du commun, véritablement extraordinaire. Et je crois qu'on peut dire extraordinaire dans son sens le plus originel, le plus fort. Non seulement il a le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, ou encore de ressusciter les morts, il est aussi un enseignant excellent et unique. Il annonce à un peuple dans la misère de son péché, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Regrettez sincèrement vos péchés. Ayez la foi, et Dieu est disposé à vous offrir le royaume des cieux. Quel message! C'est ce qu'attendaient d'ailleurs ceux qui écoutaient attentivement, ceux qui croyaient et qui obéissaient aux paroles de Jésus. On les appelle les disciples. Ils attendaient plus que jamais de voir enfin le jour où Dieu mettrait en œuvre cette promesse de délivrer son peuple parfaitement et lui permettre de le servir dans la paix, dans la quiétude, dans la justice pleine, dans la pureté, une pureté éclatante que l'humanité n'a pas connue encore jusqu'à aujourd'hui. Or, qui d'autre que ce Jésus de Nazareth pouvait être celui que Dieu a envoyé pour sauver ? Les aveugles recouvrent la vue, les infirmes marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, ils changent l'eau en vin. Il connaît les pensées secrètes du cœur comme s'il lisait dans un livre ouvert. La sagesse habite cet homme, avec la bonté aussi, le courage et la compassion. Tout ce qu'il fait est juste et ses paroles sont la pure vérité. Quel homme! Et je vous invite, surtout si nous sommes chrétiens, depuis un certain temps, à faire l'effort de ne pas trop facilement nous habituer au caractère extraordinaire de ce Jésus de Nazareth. Pensons à nos vies, pensons à ce qui est autour de nous, il sort du commun. Comment les disciples auraient-ils pu douter que c'était bien lui, le Fils de Dieu venu nous sauver et régner en bon droit compatissant? En fait, ça a été lu dans le texte précédent, il ne doutait pas. Nous connaissons la confession de Pierre, nous l'avons entendu, lorsque Jésus demande qui il est d'après eux, et il reconnaît, tu es le Messie. Les prophètes avaient même annoncé que ce Messie devait régner, recevoir la domination et être servi par les nations, et que son royaume de paix et de justice ne connaîtrait pas de fin. Pourtant, ni Pierre, ni les autres disciples n'avaient une vision complète de l'œuvre que devait accomplir ce Messie, ou du chemin à emprunter pour jouir avec lui de ses bénédictions et de ses promesses du royaume. Dieu nous a promis un monde nouveau, parce que ce monde passe et il meurt. Et nous le voyons, je ne ferai pas de commentaire sur l'actualité, quelle qu'elle soit. On connaît trop bien les raisons de penser que ce monde meurt. Et les disciples ne semblaient pas comprendre qu'il fallait inévitablement que le Messie se sacrifie, lui innocent. Il fallait qu'il donne sa vie irréprochable pour sauver celle des pécheurs que nous sommes. Lui qui n'avait aucune raison d'avoir honte, n'ayant jamais péché, il devait subir le déshonneur, la honte de mourir sur une croix comme un brigand. Peut-être quelqu'un ce matin se dit « Cela ne me concerne pas tout à fait, je ne suis pas un pécheur. » J'encourage cette personne à réaliser qu'elle affirme de fait que Dieu ment, parce que Dieu dit explicitement que tous ont péché et du coup sont séparés et ne méritent pas d'être dans la présence glorieuse de Dieu. Peut-être quelqu'un reconnaîtra être pécheur ou pécheresse, mais se défendra de n'avoir jamais commis que quelques peccadilles, comme on disait il y a quelques temps, des petits péchés si insignifiants qu'ils ne mériteraient pas la colère de Dieu ou la désapprobation de Dieu. Mais de la bouche de l'homme le plus doux de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ lui-même, nous disons qu'un simple menteur a sa part dans les ténèbres pour l'éternité, à moins qu'il soit réconcilié et pardonné par Dieu, et qui n'a jamais menti dans son salon. Je n'oserais pas en tout cas lever la main. Peut-être vous êtes un peu plus convaincu à la fois que cela vous concerne et vous êtes convaincu d'être pécheur, mais il se peut qu'en même temps vous pensiez avoir entre vos mains la solution. Vous dites peut-être, oui, j'ai fait le mal, comme tout le monde d'ailleurs, et vous affirmez, mais je fais aussi de bonnes choses par ailleurs, et à vrai dire, il me semble qu'en fin de compte, ma balance sera plutôt positive. En raisonnant ainsi, si vous me permettez de le dire, vous montrez que vous attendez de la part de Dieu un jugement injuste, parce que vous lui demandez de fermer les yeux sur des fautes, lors même qu'un juge, quel qu'il soit, s'il acquittait des fraudeurs, des tricheurs, des personnes ayant commis un délit, même mineur, nous dirions que ce juge est totalement disqualifié pour exercer sa fonction. Imaginons alors le roi de l'univers, le créateur. Non, nous avons un Dieu trop pur et trop juste pour simplement fermer les yeux sur le mal. Et si à ce stade j'ai créé un certain malaise, alors mon but premier est accompli, car je pense du coup être assuré de votre attention pour la suite, parce que votre attention m'est précieuse ce matin. Le sujet est trop important, trop grand et trop décisif pour nos vies, à tous, pour le prendre plus légèrement. Quel rapport avec notre texte ? Nous avons entendu une lecture tout à l'heure et je me concentrerai dans quelques minutes sur l'épisode de la Transfiguration, un épisode qui nous est certainement familier à la plupart d'entre nous. Et mon objectif sera de répondre à cette question. Qui est ce Messie qui dit devoir souffrir, qui m'invite à le suivre, même au travers de la souffrance, me promettant par-dessus tout un bonheur ineffable, un bonheur incomparable? Pierre ne réalise pas qu'il s'oppose au plan bienveillant de Dieu lorsqu'il reprend Jésus, comme on l'a entendu tout à l'heure, dit mais, en quelque sorte, Seigneur, comment ? De quoi parles-tu ? Comment faut-il que tu souffres beaucoup et que tu meurs ? avec toute la puissance que tu as, montrons à ses opposants que nous n'avons pas peur d'eux. La foule est quasiment à nos pieds. Toute cette puissance est-elle en vain ? Non, Jésus, certainement Pierre pensait. Ce serait la honte de nous incliner devant ces quelques opposants. Mais nous servons un Dieu qui n'instaure pas son règne comme les rois de la terre. Il n'est pas un Dieu qui instaure son règne en venant d'abord avec l'épée et les menaces. Il est un roi, qui vient en tant que serviteur, au point même de mourir pour ceux qui devraient le servir légitimement et se sont pourtant opposés à son règne. Pas un seul roi dans l'histoire de l'humanité n'a fait ça. Lorsque des sujets s'opposent à la domination d'un souverain, en général, le souverain explique qu'à moins d'une repentance quasi immédiate, l'affaire sera réglée par le fer. Et Jésus vient et dit, je vous appelle effectivement à vous repentir et je vous montre à quel point je suis disposé à ce que vous soyez réconciliés à moi en mourant pour moi. De même que Jésus a renoncé pour un temps à sa vie en mourant pour sauver son peuple, de même Jésus nous enseigne que nous devons renoncer à nous-mêmes pour le suivre afin de jouir de ce salut que nous pouvons obtenir par sa mort. C'est-à-dire que nous devons accepter d'être comme des morts en quelque sorte, en renonçant à la vaine gloire, au plaisir mauvais, éphémère de ce monde qui passe. Accepter d'aller à contre-courant souvent d'un monde qui cesse de se détruire lui-même, d'une humanité misérable et mal orientée, parce qu'elle refuse de suivre le bon berger. Si nous hésitons à suivre Jésus, de peur que notre entourage ne nous traite de fous ou d'illuminés peut-être, ou de peur de devoir délaisser quelques plaisirs si bas finalement, quelques trésors périssables. Eh bien, le texte que nous avons entendu tout à l'heure nous dit, Jésus dit qu'il aura aussi honte de nous devant Dieu et ne nous défendra pas. En revanche, c'est lui-même, le Fils unique de Dieu, qui viendra se placer à côté de chacun et de chacune, au grand jour des comptes. Et il dira certainement quelque chose dans ce genre, « Celui-ci m'a aimé et a cru en moi. Celle-ci m'a aimé et m'a fait confiance. Je connais les souffrances qu'il a endurées pour moi et pour mes paroles, et je sais que celle-ci a supporté plusieurs difficultés pour me rester fidèle. Et mon sang a coulé pour lui, pour elle. » Et Jésus poursuivra, « Je n'ai pas honte de lui. Je n'ai pas honte d'elle. Ils sont avec moi, ils sont à moi. » Appartenir au divin roi qui a tant aimé les siens qu'il a souffert pour eux jusqu'à la mort, lui le juste pour des injustes, c'est la félicité éternelle et assurée. Et notre instinct de survie a besoin d'être convaincu. Mes paroles, peut-être dans les oreilles de certains, peuvent n'être que de belles paroles. On peut se dire, mais oui, c'est bien joli tout ça, mais dans le concret de la souffrance, c'est moins évident d'articuler toutes ces choses et de peser le pour et le contre et de voir que ce bonheur qui nous est promis, un peu loin, a des ramifications concrètes pour le moment où je souffre. Et c'était la même chose pour Pierre et pour les disciples. Ce puzzle difficile à résoudre leur posait un réel dilemme. Comment ce Messie qui nous annonce et qui nous a montré une si grande puissance qu'on nous dit maintenant qu'il va mourir et que nous devons le suivre et souffrir. À ce moment, les disciples ont besoin d'une réponse à une question donc essentielle. Et cette réponse, plutôt de cette réponse, dépendra la continuation de leur confiance ou alors l'abandon de la foi. Je répète. Les disciples sont dans un moment où ils ont besoin d'une réponse à cette question. Ce Messie est-il suffisant par rapport aux souffrances qu'il nous annonce? Et de cette réponse viendra la continuation de leur foi dans l'épreuve et malgré l'épreuve, ou alors l'abandon de la foi. On pourrait formuler la question ainsi. Qui est cet envoyé de Dieu qui doit souffrir et mourir et que pour mon bonheur, je devrais suivre totalement au travers même de la souffrance? Et c'est à cette question que notre texte de la Transfiguration répond, il me semble. Ce qui va suivre, donc, n'est pas d'un intérêt vital uniquement pour des croyants, mais je pense et je suis convaincu qu'il est d'un intérêt vital pour des personnes qui se posent encore la question « Dois-je m'intéresser davantage ou non à ce Jésus ?» Par cet événement de la Transfiguration, Jésus veut rassurer, encourager ses disciples après leur avoir annoncé, annoncé un événement difficile à supporter pour ceux qui lui faisaient une confiance totale. Il va leur montrer un avant-goût du royaume de Dieu, de la puissance de vie du royaume de Dieu, comme un encouragement à ne pas craindre les épreuves du monde présent, qui en comparaison à la gloire promise et future, ne sont que des souffrances dérisoires. Pour la suite de mon message, je veux donc mettre devant vos yeux et devant nos yeux quatre vérités qui se trouvent, il me semble, dans le texte et qui nous démontrent que cet envoyé de Dieu qui doit souffrir et mourir, et que pour mon bonheur et que pour votre bonheur, vous devez suivre, même au travers de la souffrance, est digne, est fiable, est suffisant pour tous vos besoins. La lecture donc se fera dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, verset 2 à 10.
6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait « ressuscité ». Puis ils lui posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour rétablir toute chose. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet.
Avant donc de vous proposer les quatre réponses à cette question que je rappelle, qui est cet envoyé de Dieu qui doit souffrir et mourir, et que pour mon bonheur je dois suivre, même au travers de la souffrance. Je résume donc ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pierre et les disciples reconnaissent que Jésus est le Messie. Mais ils semblent avoir une compréhension partielle, incomplète, de ce que devait faire le Messie, puisque quand Jésus leur annonce « Je vais bientôt souffrir entre les mains des chefs religieux et mourir et ressusciter », Pierre s'y oppose. Et Jésus le reprend assez sévèrement, comme pour dire « Pierre, tu t'opposes à quelque chose de trop important que tu ne sembles pas réaliser. » Et Jésus poursuit en disant « Vous devez comprendre une chose, votre salut, je l'accomplis parfaitement, et pour cela, vous devez me suivre totalement. Vous ne pouvez pas à la fois chercher les trésors du monde et gagner le monde, et en même temps sauver votre âme. Le salut de votre âme passera par un renoncement aux trésors éphémères de la terre. » Et devant toutes ces déclarations, les disciples, un peu déstabilisés probablement, Jésus va attendre 6 jours pour laisser retomber un peu la tension, la pression, leur ayant promis la chose suivante que nous lisons au verset 1. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Jésus leur dit en d'autres termes, « Je vais donner à quelques-uns d'entre vous un avant-goût. » Cet avant-goût est tellement, tellement grand qu'il suffit que seulement quelques-uns d'entre vous l'aient vu. Et son effet se propagera dans l'ensemble des disciples. Et après la résurrection de Jésus, nous savons que ça a été un des moteurs des disciples, leur compréhension que ce Jésus est bien plus que ce que nous avions pensé. 4 points donc. Premièrement, il est celui dont je ne peux pas imaginer l'étendue de la grandeur. Il est celui dont je ne peux pas imaginer l'étendue de la grandeur. Nous le voyons, il nous semble, à partir du verset 2. Je vous ai donc rappelé un peu le contexte qui précède avec le verset 1. Et au verset 2, nous lisons ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Cette transfiguration, dans le texte grec original, on pourrait traduire littéralement par métamorphose, ça nous parle peut-être plus. Jésus ici montre aux disciples que, contrairement à ce qu'il paraît, il est certes un homme, mais il n'est pas qu'un homme. Il y a bien plus en lui dans sa nature profonde et cachée. Bien plus que les disciples ne pouvaient le soupçonner. Vous savez, c'est un peu le principe des poupées russes, mais inversé. Les poupées russes, normalement, lorsque on sépare les deux premières parties, nous avons ensuite une poupée identique, mais dans un format plus petit. Mais avec le Christ, pour ainsi dire, c'est le schéma inversé, puisque lorsque nous découvrons une facette cachée en Christ, elle nous dévoile une grandeur insoupçonnée, bien plus grande que ce que nous avions vu. Alors imaginez-vous, c'est quelque chose de stupéfiant, vous séparez les deux premières parties de la poupée, sauf que chose improbable et juste impossible, humainement parlant, et dans ce que nous connaissons de normal, la poupée suivante est 2 fois plus grande que la précédente, que celle qui la contenait, et ainsi de suite. Jésus est plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Et ce dont les apôtres avaient donc besoin, et ce dont vous avez besoin, chacun ici, c'est d'informations supplémentaires sur ce Jésus, d'une plus grande connaissance de qui est ce Jésus pour lui faire confiance. Nous ne voulons pas, effectivement, et nous avons raison, avoir une foi aveugle. Et le christianisme biblique n'invite pas une foi aveugle. Vous avez, dans cette église, et il ne m'a pas, il n'est pas au courant que je vais dire ceci, mais je le dis parce que je le pense, un pasteur qui, semaine après semaine, fait cette belle œuvre de mieux connaître le Christ, pour en faire profiter tous ceux qui assistent aux réunions qui sont organisées ici. Profitez-en, profitez-en, car plus votre connaissance du Seigneur Jésus grandira, plus votre confiance sera inébranlable. Je vais essayer de vous démontrer brièvement, mais j'espère efficacement, la nécessité de plus d'informations. Imaginez ceci. Un homme entre dans un bus et s'y installe. Le bus démarre, roule, et à la prochaine station entre un homme aveugle. Le premier homme à être monté dans le bus constate que cet homme est aveugle et lui cède sa place. Était-ce une bonne chose ? Non, absolument pas en réalité. Et là, vous vous dites, probablement pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cette petite histoire, comment ça, ce n'était pas une bonne chose ? Eh bien, je vous donne une information supplémentaire maintenant qui vous prouvera que ce n'était pas une bonne chose. L'homme qui a cédé sa place tenait le volant du bus, c'était le conducteur. Il a cédé sa place à un homme aveugle. Et là, tout de suite, vous comprenez et vous dites, ah oui, mais évidemment, bien sûr. Je suis convaincu que c'était donc une mauvaise chose, ce n'était pas la bonne chose à faire. Et c'est un peu comme ça que nous vivons. Nous vivons en fonction de ce que nous savons. Nous accordons foi et notre confiance en fonction de ce que nous avons expérimenté, entendu, connu. Et nous avons donc besoin de connaître davantage le Christ. Et nous ne serons pas déçus, car il est fiable. J'espère donc que vous voyez où je veux en venir. Voir Jésus transfiguré, voir Jésus métamorphosé, lire la Bible et mieux connaître ce Dieu, c'est bénéficier de ce plus dont on a besoin chaque jour pour continuer sur ce chemin parfois si difficile de notre pèlerinage terrestre jusqu'à la patrie céleste. Avec Jésus, point d'épreuve trop grande pour ceux qui le suivent. Car ceux qui s'approchent de cet homme, nés miraculeusement d'une vierge, réalisent que cet homme est aussi le Fils de Dieu, le Dieu lui-même, venu parmi les hommes. Premier point, donc, c'était que Jésus est d'une grandeur insoupçonnable. Deuxième point, il est celui qui manifeste et fait approcher un royaume d'un autre monde. Un royaume plus glorieux que tous les royaumes de ce monde. Je répète, il est celui qui manifeste et fait approcher un royaume d'un autre monde. Un royaume plus glorieux que tous les royaumes de ce monde. Voyez au verset 3 comment est décrite cette métamorphose, cette transfiguration de Jésus. On nous dit que ses vêtements sont devenus blancs, d'une telle blancheur, nous précise le texte, que aucun blanchisseur sur la terre n'est en mesure de blanchir ainsi. Juste avant de continuer sur cet aspect, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu dans l'Exode, les entretiens de Moïse avec Dieu sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse voit l'Éternel et discute avec lui face à face, nous dit le texte, il redescend ensuite vers les Israélites pour leur annoncer la parole de Dieu. Mais lui n'est pas au courant d'une chose, c'est que, ayant été dans la présence intime de Dieu, son visage est reluisant d'une blancheur éclatante. Et les Israélites le voient et sont étonnés, stupéfaits, émerveillés. Moïse reluisait d'une gloire d'ailleurs parce qu'il avait vu Dieu. Mais il y a une différence avec la blancheur dont reluit Jésus-Christ. C'est la suivante. Moïse, son visage brillait parce qu'il avait vu une gloire qui est extérieure à lui. N'est-ce pas ? Jésus resplendit d'une gloire qui vient du profond de lui. Et la différence est, il me semble, énorme. Marc, l'évangéliste, que l'Esprit de Dieu a inspiré pour écrire ce récit, continue la description. Et je vous l'ai dit donc, il nous dit qu'aucun blanchisseur à la surface de la terre ne peut blanchir ainsi. C'est donc que cette blancheur vient d'ailleurs. Et pourquoi j'insiste dessus ? Simplement, je fais l'analogie qui me paraît simple, la comparaison qui me paraît simple. Si les vêtements de Jésus, si seulement ses vêtements resplendissent comme aucun blanchisseur, comme aucune technologie sur cette terre ne peut blanchir, combien supérieure peut être la puissance de ce Jésus ? Combien supérieure peut être la consolation que ce Jésus apporte ? Combien plus grande peut être la sagesse, la justice, le pardon, l'amour, l'épanouissement ? Combien mieux que tous les royaumes de ce monde, ce Jésus-Christ peut-il combler nos besoins au sein même de la souffrance ? Et c'est là, du coup, un encouragement pour les disciples qui assistent à cela et pour nous aujourd'hui, de réaliser que en Jésus-Christ, il y a des trésors inépuisables de solutions, de grâce, de bénédiction. Nous pouvons donc, avec confiance, avancer et suivre ce Jésus, renoncer aux trésors de la terre, sachant que nous avons un héritage incomparablement supérieur. Ici, nous n'avons rien que nous n'emporterons dans la tombe. Là-haut, nous n'avons rien que nous ne pouvons perdre. Rien. Ici-bas, nos possessions peuvent nous décevoir. Là-haut, comme Marc-Étienne l'avait lu dans le texte précédent de l'Épître de Pierre, nous avons un trésor qui ne peut pas perdre son éclat. Soyons encouragés à faire le bon choix. Il me semble que dans la balance, les trésors de ce monde pèsent très léger. Celui donc qui, pendant sa vie, ici-bas, n'aime pas Dieu et n'aime pas les choses célestes, doit se poser la question. Les aimera-t-il lorsqu'il serait au ciel ? Non, c'est maintenant que nos affections doivent se poser sur les choses les plus importantes. Et c'est maintenant que nous exerçons nos cœurs, par la grâce de Dieu qui a transformé nos cœurs, à aimer ce qui doit être aimé et à délaisser ce qui doit être délaissé. Peut-être certains se disent que ce discours est un petit peu redondant, cette insistance sur la souffrance, sur le renoncement. Et je voudrais juste rappeler les paroles que nous avons entendues tout à l'heure de Jésus. Il nous dit, mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier ? Ça veut dire avoir tout l'argent que vous voulez, toutes les maisons que vous voulez, toutes les voitures, toutes les possessions, toutes les richesses, tous les terrains, avoir toute l'humanité à votre service, avoir toutes les technologies, toutes les puissances de cette terre à votre service. Jésus dit, ça ne sauverait pas votre âme. Vous pourriez avoir en votre possession 1000 univers. Votre âme a une valeur trop supérieure pour être asservie à de telles choses. Et Jésus dit, en revanche, celui qui est prêt à renoncer à toutes ces choses et à sa propre vie trouvera la vraie vie en Jésus-Christ, la vie éternelle. Je termine ce point juste avec la citation de Jim Elliot, qui était un missionnaire en Équateur. Il est mort en mission, tué par ceux à qui il venait annoncer le message de la bonne nouvelle en Jésus. Et il a dit la chose suivante. Il n'est pas si bête celui qui abandonne, qui donne, qui délaisse ce qu'il ne peut pas garder, afin d'obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas si bête celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder, afin d'obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Troisième point, avant-dernier point. Je vous rappelle la question, qui est ce Messie que je dois suivre, ce Messie qui me dit devoir mourir, qui me dit devoir le suivre totalement, même dans la souffrance, et me promet un bonheur qui surpasse toute chose. Nous avons dit qu'il est celui dont la grandeur est insoupçonnable, il est celui qui manifeste et fait s'approcher un royaume d'un autre monde, un royaume plus glorieux que tous les trésors de ce monde. Troisièmement, il est celui dont la gloire fait vivre, celui qui fait vivre les morts même par sa propre gloire. Il est celui dont la gloire fait vivre. Celui qui fait vivre même les morts par sa gloire. Nous lisons au verset 4 une chose que je réalise avant d'avoir étudié un peu plus ce texte. J'avais eu l'occasion de le lire à plusieurs reprises. Et je sais probablement si ça vous le fait aussi, mais on peut vite rater des choses qui sont juste anormales. Et on les prend habituellement comme des choses familières, et du coup nous ratons l'enseignement précieux qui s'y trouve. Je m'explique concrètement. J'ai souvent lu ce texte, et ce texte nous dit qu'Élie et Moïse sont apparus là sur la montagne. Chronologiquement, pour ceux qui sont au courant, c'est quelque chose de très étrange. Élie a vécu à peu près 900 ans avant Jésus. Et Moïse est mort depuis à peu près 1400 ans à ce moment. Alors je demande, n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange? C'est en réalité un encouragement pour les futurs leaders, Pierre, Jacques et Jean, qui sont là, qui voient leurs prédécesseurs au service de Dieu, ces deux prophètes, Moïse et Élie, véritablement vivants, leur apparaissant sur le mont de la Transfiguration. Et Moïse et Élie, l'un comme l'autre, ont connu de grandes souffrances au service de Dieu sur cette terre. Et les voilà maintenant qui apparaissent dans la gloire de Jésus, consolés de tous leurs maux. N'est-ce pas ce dont Pierre, Jacques et Jean, qui allaient connaître la persécution quelques années plus tard, n'est-ce pas ce dont ils avaient besoin? N'est-ce pas ce dont vous, aujourd'hui, ce matin, ici, vous avez besoin dans ce monde dans lequel nous vivons et qui semble être de plus en plus déraisonnable? Quelqu'un se dit peut-être, oui, mais c'est la Bible qui le raconte. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Ils hallucinaient sûrement. Une hallucination, même plusieurs personnes qui hallucinent au même endroit, ne produit pas la même vision pour ces trois personnes. Et je rajouterai, j'ai des doutes qu'on supporte la persécution pendant des années pour un mensonge ou pour une hallucination. Et ces trois hommes ont supporté insultes, menaces, spoliation, marginalisation, emprisonnement injuste, coups, et même décapitation pour Jacques, crucifixion pour Pierre, exil pour Jean. Quelqu'un qui ment ne ment pas à ce point. Il est assez simple et assez rapide de le ramener à la raison. Ces hommes ont vu le Christ transfiguré, le royaume de Dieu s'approcher. Et ils vous promettent, ils vous l'annoncent. Il est à vous, si seulement vous êtes prêt à reconnaître en Jésus le bon berger de votre âme. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus, tous ceux qui croient en lui, il leur accorde d'abord la vie spirituelle de mort qu'ils étaient. Ils vivent maintenant spirituellement et sont en relation vivante avec Dieu. Puis, il leur accorde la vie physique, la résurrection d'entre les morts à son retour prochain et soudain. Comprenez-vous cela? Croyez-vous cela? Et si vous vous posez la question, est-ce que j'y crois? Ne regardez pas trop à vous-même, regardez à Christ et croyez. Si les disciples ont eu du mal à comprendre ce que signifiait le fait que Jésus allait ressusciter cet événement sur la montagne, il va les encourager, comme je l'ai dit après la résurrection, à ne pas craindre la mort. Et l'apôtre Pierre, dans son épître, dans une de ses épîtres, parle ainsi de sa mort prochaine, qui lui a été annoncée par le Seigneur même. Il dit « Je sais que bientôt, je dois quitter cette tente. » Pour un exode. Le texte grec littéralement parle d'exode. Voici donc un homme qui reniait son Seigneur le jour de la crucifixion et disait « Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. » Craignant la mort et qui ensuite, quelques années plus tard, va à la mort paisible. Je fais un exode. Je quitte cette tente pour rejoindre mon Seigneur et dans quelques temps, je ressusciterai. Pour nous, croyants, il me semble que cette vérité a un impact concret pour nos défis du quotidien. Nous avons beaucoup de défis qui sont comme des petites morts. Je m'explique. Lutter contre la paresse, je ne sais pas vous, mais je le reconnais devant vous, il y a des moments, pour moi, c'est une petite mort. Il me faut me faire violence pour les choses essentielles. Et n'avons-nous pas en commun cette nature encore faible qui ne sait pas persévérer suffisamment dans les choses bonnes? Et cette réalité que nous ne devons pas craindre la mort nous encourage au quotidien. Oh, pourquoi craindrais-je l'effort? Pourquoi craindrais-je un peu de souffrance alors que j'aurai un corps bientôt exempt de souffrance, de douleur? Lorsque nous devons partager notre foi en public, c'est une sorte de mort parfois. Nous craignons le regard des autres, nous craignons peut-être la marginalisation, les moqueries, voire même parfois la persécution dans certains pays. Et la pensée de la résurrection, la pensée de la vie qui continue, quand bien même nous sommes morts, eh bien, elle nous encourage à dire que craindrais-je? Craindrais-je un homme alors que Dieu me donne la vie? Quatrième et dernier point, qui sera plus court. Jésus-Christ est celui qui reçoit de Dieu lui-même le témoignage d'être son Fils bien-aimé, celui qu'il faut écouter. C'est Dieu lui-même qui va faire entendre cette voix dont le texte nous a parlé pour témoigner que ce Jésus est le Fils de Dieu bien-aimé, celui qu'il faut écouter. Pourquoi? Eh bien, Pierre avait du mal. Jésus, je pense que tu t'es trompé, c'est pas tout à fait le programme. Mourir à la croix avec une telle puissance, il y a peut-être des plans un peu plus efficaces. Et Dieu témoigne et dit, c'est celui-là que vous devez écouter, pas un autre. Et j'aimerais préciser l'implication, il me semble, de cela, qui est très concrète, très contemporaine, très terre à terre. Cela implique donc que ce n'est ni Mohammed, ni Bouddha, ni Confucius, ni Michel Onfray, plus contemporain, que nous devons écouter si nous voulons prendre ce chemin qui mène à Dieu. Ils ne sont pas, d'après le témoignage de Dieu lui-même et des apôtres, ils ne sont pas les autorités en matière de spiritualité et en matière de sagesse. Jésus-Christ est la sagesse, la sagesse de Dieu manifestée aux hommes. Cela implique donc que c'est le Nouveau Testament, la Bible entière, inspirée par Dieu, le Nouveau Testament inspiré aux apôtres, disciples de Jésus, qui est l'autorité en matière de spiritualité, de vie et de sagesse. Il n'y a pas des bons bergers, mais il y a un bon berger. Il n'y a pas des fils bien-aimés, même si nous sommes, lorsque nous croyons en Dieu, ses enfants bien-aimés, mais il y a un fils bien-aimé, le fils unique de Dieu, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, celui dont je vous parle depuis un certain temps et au sujet duquel je vais conclure. Ce monde, c'est comme si les rênes, depuis quelque temps, avaient été lâchées. Il plonge. Et au plus ancien de la salle, ça va vous paraître peut-être étrange, je n'ai pas encore 30 ans, mais j'ai déjà de l'anxiété pour les filles. Un monde étrange. Tout ce qui se passe. Et je ne parle pas simplement des guerres, mais je parle de la manière dont ce monde nous dit que nous devons trouver le bonheur. Mais ce Jésus, dans ce brouillard, est la lumière que nous pouvons suivre avec la garantie de traverser ce brouillard et d'atteindre la félicité. Et je précise, la félicité, c'est pas simplement d'être au paradis, car un paradis sans Jésus n'est plus le paradis. Le paradis même, c'est d'être au pied béni et percé de celui qui a souffert pour son peuple, et dont nous commémorons la mémoire ce week-end. Que Dieu bénisse chacun, que Dieu encourage chacun, et que ceux qui cherchent continuent, car Jésus promet qu'ils trouveront. Thank you.